Comme beaucoup d'entre vous, j'ai eu des discussions difficiles cet été sur les mesures sanitaires imposées contre la pandémie. Et je voudrais relire cela à la lumière de l'évangile qu'on vient d'entendre, où Jésus nous invite à être avant tout attentifs à ce qui vient de notre cœur, ce qui vient du dedans, dit-il, du cœur de l'homme, davantage parfois qu'à ce qu'on pourrait nous imposer ou même inoculer. La phrase est forte. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Le privilège du prêtre, c'est d'avoir non seulement des connaissances, mais des amis dans toutes les sphères de la société. Voilà un bon appel pour les vocations. La diversité des personnes que nous rencontrons, avec qui on se lie d'amitié, chez les pauvres et chez les riches, chez les savants et chez les ignorants, dans le monde médical ou dans le monde politique, et dans le monde médical, aussi bien parmi les aides-soignantes que parmi les professeurs de médecine. Ce qui fait que chaque fois qu'un groupe ou qu'une catégorie sociale ou une catégorie professionnelle est mise en cause, ce qui est une généralité dans le discours n'a pas du tout la même portée pour moi. C'est pour moi, ce sont des personnes que je connais. Ce qui explique que dans les discussions difficiles, j'ai une discussion très houleuse avec une paroissienne qui est venue m'expliquer qu'on ne pouvait pas faire confiance aux médecins, surtout pas aux spécialistes, parce qu'ils avaient trop de conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. Et je lui dis, mais je connais un certain nombre de ces médecins. Vous ne pouvez pas généraliser ainsi, vous ne pouvez pas faire cette présentation-là. Et même parmi même les médecins que vous connaissez, on ne peut pas réduire ainsi leur activité, voire leur motivation. Il se trouve que nous commençons ce dimanche la lecture de la lettre de Saint Jacques, qui contient au chapitre 4 une phrase extrêmement forte. « Frères, cessez de dire du mal des uns des autres. » Cessez de dire du mal des uns des autres. Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? Aujourd'hui, 29 août, c'est la mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste. Son langage était vigoureux, fort. Mais son humilité était plus forte que tout, et en particulier d'ailleurs à l'égard des autorités aussi bien publiques que religieuses. Et c'était elle qu'il a toujours appelé à la conversion sans jamais condamner. Il appelait à la conversion. Et hier, le 28 août, c'est la fête d'un autre géant, Saint Augustin. Saint Augustin d'Hippone qui a eu à lutter contre une hérésie qu'on appelle le donatisme, du nom de l'évêque Donat. L'évêque Donat était impitoyable avec ses confrères, avec les évêques, qui avaient failli pendant la grande persécution de l'empereur Dioclétien au tout début du IVe siècle. Il y a eu une persécution effroyable et beaucoup d'évêques avaient préféré sauver leur peau, renier leur foi, avaient préféré abjurer que de mourir martyr. Nul ne sait ce qu'il fera dans une situation de menace et de persécution. Même l'apôtre Saint-Pierre qui avait promis « Moi, jamais !» lorsqu'il s'est retrouvé menacé. Et Donat affirmait que ces évêques qui avaient failli, de ce fait, n'étaient plus aptes à leur fonction et que les sacrements qu'ils célébraient étaient dès lors invalides. Imaginez cette position. Imaginez, dans l'histoire de l'Église, si on avait pris cette position à chaque grande défaillance, en particulier la hiérarchie, si après la libération, on avait écarté tous les évêques qui n'avaient pas résisté. La question d'ailleurs s'est posée. Mais même de façon plus récente, même aujourd'hui, tous les évêques qui ont négligé des crimes pédophiles. La position qu'on appelle donatiste est apparue en 312 et elle a été rejetée par l'Église l'année suivante, en 313, par un concile à Rome. Et pourtant, un siècle plus tard, elle restait aussi forte, aussi vivace. Et saint Augustin donc dut s'y confronter en participant en 411 à ce qu'on appelle la conférence de Carthage, où il y avait 600 évêques
Et sur les 600 évêques, il y en avait 300 donatistes et 300 catholiques. Et par son influence, par le rôle qu'il a joué, il a mérité à jamais le titre qu'on donne à saint Augustin, docteur de la grâce. C'est beau ça, c'est la définition même de la grâce de Dieu, la grâce des sacrements. Docteur de la grâce. L'exigence de pureté chez les autres a pris tout au long de l'histoire de multiples formes. C'est incessant, ça existe en permanence. La plus célèbre, c'est ce qu'on appelle l'hérésie cathare. Cathare, puisque le mot en grec veut dire pur, dont les pharisiens, finalement, lorsqu'ils se prononcent, sont d'autres tenants, presque les ancêtres, qui jugeaient d'ailleurs, qui avaient cette propension à juger les autres impurs, ceux qui ne se conformaient pas exactement à tous les règlements, à toutes les prescriptions. Et l'hérésie cathare, elle est remarquable d'abord par sa cause, le contexte de l'époque et l'état de déliquescence inimaginable de l'Église. Inimaginable pour nous aujourd'hui. On peut résumer par deux mots. Le luxe et la luxure. Mais aussi remarquable par la cause que par la réponse qui a été apportée par l'Esprit-Saint en la personne de saint François d'Assise. Comment Dieu veut-il que nous répondions au mal ? Par le retour à l'Évangile, par la charité du Christ. Lorsque nous disons que la beauté sauvera le monde, c'est vrai, mais cette beauté qui sauve le monde, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour du prochain. Et quand on disait à saint François, il disait, frère François, vraiment vous êtes un saint. Il répondait, ne vous y trompez pas, je suis encore capable de faire des enfants. Dans toute la diversité des personnes que je rencontre à peu près autant d'extrémistes d'un côté que de l'autre, et tout ce qui va entre les deux, mais pour rencontrer à peu près autant d'intégristes que de laxistes, je suis toujours étonné d'avoir cette impression qu'ils ont une morale à géométrie variable. Ils donnent l'impression de faire le tri dans les commandements de Dieu en choisissant ce qui leur semble prioritaire. Exactement le contraire de ce qu'on entend dans la première lecture. Il ne s'agit pas de choisir ce qui nous semble important, c'est de recevoir la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus déplorait des pharisiens avec une très belle formule qu'on trouve dans l'évangile de saint Matthieu. Il disait, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Et il disait, mais il faut effectivement filtrer le moucheron, mais il ne faut pas avaler le chameau. Attention, il faut faire et l'un et l'autre. Et le texte de saint Matthieu est tout à fait comparable à celui qu'on vient d'entendre de l'évangile de saint Marc. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur rempli de cupidité, d'intempérance, dit-il aux pharisiens. Vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, plein d'hypocrisie. Et la parole, peut-être pour moi la plus juste, a été prononcée par saint Philippe Néri. Saint Philippe Néri, c'est l'apôtre, c'est le grand saint de la joie. Tous les jours, il priait le Seigneur, il disait, « Seigneur, méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi, j'ai si peur de te trahir. » Voilà une belle prière pour ce temps troublé, incertain, de pouvoir demander cela au Seigneur. « Seigneur, méfie-toi de moi » et de reprendre la prière de saint Philippe Néri, « Garde-moi dans ta fidélité. » Méfie-toi de moi, Seigneur, et garde-moi dans ta fidélité.